Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Sebag, chef cuisinier et entrepreneur. Vous connaissez mon amour pour les bons petits plats, donc je suis toujours hyper heureuse de recevoir des chefs sur le podcast. Et ce qui est le plus fou, c'est que Julien est un autodidacte. Parce que Julien n'a jamais étudié la cuisine, après le bac, il entre en école de commerce parce qu'il savait pas exactement ce qu'il voulait faire. Et c'est au fur et à mesure des expériences, de dîners organisés où il se charge du menu, qu'il se rend vraiment compte de son amour pour la cuisine. Il décide alors de proposer bénévolement son travail auprès de restaurants pour se former, pour apprendre et pour réellement découvrir le métier. À la fin de ses études, il décide donc de lancer son propre projet de chef à domicile, une expérience pas trop engageante qui lui permet de valider son concept et de se faire connaître. Il enchaîne ensuite avec la création d'un restaurant éphémère, chez WAM, pour enfin prendre les rênes du restaurant Créature, situé au Galeries Lafayette, un restaurant 100% végétarien qui lui permet d'exprimer tout son engagement et sa créativité. Julien montre bien dans cet épisode deux choses en particulier, que travail et plaisir ne devraient pas être opposés, bien au contraire, et que quelle que soit notre formation, si on est passionné, on peut se donner les moyens d'y arriver. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, et si ce n'est pas la première fois, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Julien. Bah écoute, bonjour Julien.
Salut.
Bienvenue sur In Power, je suis très heureuse de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Merci beaucoup, merci de me recevoir ici, chez toi. Je sais pas si on a le droit de le dire.
Ouais, on a le droit de le dire, il n'y a pas de secret ici.
Trop cool et enchanté. Et bah écoute, moi je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, putain, déjà 28. Et je suis plutôt grand, j'ai les cheveux assez longs, pas très gros et j'adore cuisiner. Voilà.
J'adore, c'est hyper atypique comme présentation. Juste, je me questionne, pourquoi tu te présentes d'abord par ton apparence physique?
Ah bah, je sais pas.
T'aimes bien parce que les gens mettent un visage sur...
En fait, je le fais pas tout le temps, c'est juste que comme là, c'est un podcast et qu'il y a que nos voix, j'essaye de me glisser dans la tête des gens et dans leur imaginaire, tu vois, vu que là... on s'affilie à une voix, peut-être qu'on peut mettre une apparence dessus, tu vois, et rentrer un peu, que les gens puissent s'attabler avec nous, vu qu'il y a des chaises vides.
Ah, c'est marrant, j'aime beaucoup. Du coup, Julien, est-ce que tu peux nous dire comment t'étais quand t'étais enfant? Quelles étaient tes aspirations, tes rêves? Est-ce que tu trouves que t'as changé par rapport à aujourd'hui? Enfin, j'aime bien connaître un peu comment s'est déroulée l'enfance des personnes que je reçois.
J'ai la chance d'avoir une famille vachement aimante. Une enfance hyper colorée avec des beaux voyages, je manquais de rien, une famille vraiment cool et des copains. Après, le truc, ce qui, je pense, qui me nourrit aujourd'hui, c'est peut-être ma différence dans le sens où j'étais hyper sensible, je le suis toujours. Et quand t'es petit, c'est pas pareil que quand t'es grand. Tu sais, les enfants parfois comprennent pas trop la timidité des autres ou ne comprennent pas trop l'extravagance. Moi, quand j'étais petit, parfois j'avais des côtés peut-être un peu efféminés ou un peu plus sensibles, même dans ma façon de m'habiller, etc. Donc c'était pas pris. Aujourd'hui, c'est pris comme une différence, comme une richesse. À l'époque, c'était plus pris comme Donc j'étais. Il y avait des moments où je me sentais peut-être un peu chercher un peu ma place, tu vois, étant petit.
Et ça, tu l'as réalisé assez vite ou pas? Enfin, comment t'en es amené à réaliser que t'étais hypersensible? Parce que c'est vrai que quand on vit notre propre réalité, c'est difficile de se rendre compte que c'est pas forcément celle des autres. Enfin voilà, comment est-ce que t'as fait ce cheminement et fini peut-être par accepter le fait que t'étais hypersensible?
En grandissant, tu le sens déjà dans le regard des autres et quand tu te fais un peu charrier par les copains, tu vois, celui qui est toujours la tête dans la lune, tu vois, la typique, etc. Tu le sens à l'école, à partir du collège déjà, voilà. Mais le collège, ça va parce que t'es toujours hyper influençable, tu sais, je sais pas, c'était quoi on a tous un délire de collège, tu vois, t'étais quoi, toi? T'étais plutôt skateuse, plutôt tectonique, plutôt, je sais pas.
Tectonique, je me souviens. Alors, moi, collégienne, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, la période où on cherche sa place. Moi, j'étais très... il faut que j'aie des potes, tu vois, genre très bande, très... assez leader aussi. Et moi, en plus, j'ai changé en cinquième. Et c'était assez chaud parce que j'ai changé, même de milieu, tu vois, c'est con, mais je passais du 15e au 7e arrondissement. Pas du tout le même délire. Et donc ça a été assez chaud, quoi, de se réadapter et de s'intégrer bah, dans un milieu différent. Mais c'est vrai que l'école, c'est un peu un révélateur de nos différences. Et ce qui est difficile, c'est qu'au contraire, au collège, on te demande un peu de rentrer dans un moule.
Complètement. Le collège, c'est une phase un peu ouais, où tu rentres dans un moule. Et bah moi, j'étais skater à fond. Mm. Et ça m'est resté. Mais donc, en fait, je pense que tu es plus à la recherche du moule plutôt qu'à la recherche de toi-même au collège.
C'est clair.
Je pense. Hein. Mm. Après, peut-être que ça a tendance à évoluer, mais on est vachement influençable à cet âge-là.
Ouais,
tu vois, après adolescence, je pense.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est plutôt plutôt vers le lycée où j'ai commencé à m'affirmer. Et après, là, c'est à la vingtaine hein, que...
Qu'on accepte vraiment qui on est.
Ouais, je pense.
Ouais.
Je pense.
Du coup, tu pensais t'orienter vers quelle voie ? Est-ce que cet amour de la cuisine, tu l'avais déjà à cet âge-là ?
Écoute, comme je te l'ai dit, j'avais une sensibilité. Je savais que j'avais envie de m'exprimer un jour. Je savais que j'avais quelque chose à sortir, tu vois, quelque part. Après, je savais pas quel était mon talent du tout à l'époque. Je savais pas que ça allait passer par mon talent. Enfin, j'espère en tout cas. Mais je savais pas que ça allait se traduire par la cuisine. À l'époque, je m'intéressais vachement à la mode vers mes 16 ans. Ouais, vers là. 18 ans, tu vois, vers le bac, tout ça. Finalement, après, plutôt l'art contemporain, que j'adore toujours, qui sont toujours de mes passions, mais pas de talent particulier. Et puis, c'est plus tard, en voyageant vers 22 ans, donc il y a 5-6 ans, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait que cet amour,
sensibilité
tout, ouais. elle allait passer par quelque chose qui dépassait la passion qui est vitale, quoi, la cuisine.
Ouais. Et est-ce que ça a été difficile pour toi, du coup, de genre choisir tes études, même le bac et après le bac, quand t'étais là, bon, tu savais que t'avais un besoin d'expression, en plus, c'est pas le truc qui est hyper valorisé dans le système scolaire, comment du coup est-ce que tu t'es un peu orienté et est-ce que c'est une période qui a été compliquée ? Parce que c'est vrai que quand on sait pas, on a un peu cette pression en mode, il faut que je sache, quoi.
Bah, tu vois, il y a plein de gens qui disent qu'en France, on est quand même ouf de donner... de laisser un peu les gens c'est quand en fait que tu choisis, enfin on est toujours sur le système bac L E S S.
Bah écoute, maintenant ça a changé,
je comprends plus,
en fait maintenant il y a plus une seule spé, c'est tu dois choisir plusieurs matières qui t'intéressent.
Ah d'accord.
Donc c'est un peu plus ouvert, un peu plus pluridisciplinaire, mais t'as quand même ce côté est-ce que tu choisis la philo, est-ce que tu choisis les matières scientifiques, donc il y a un peu toujours ce système de cases.
Ok. Bah franchement moi ça m'allait parce que franchement j'avais aucune, je pense que c'est vraiment compliqué de savoir ce que tu veux faire à 16 piges, tu vois, c'est chaud aux 15 piges, donc c'est bien qu'on te laisse encore des, juste on dit qu'est-ce que t'aimes bien et tu vois ça affine le truc après petit à petit. Moi personnellement en sortie de bac, je sais pas en fait, c'était pas qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine en fait, tu vois, et qu'est-ce que j'avais plutôt envie de faire une école plutôt qu'une fac parce que je préférais être un peu couvé, ça je le savais. Je savais que j'avais envie de faire un truc qui me laisse le maximum de portes ouvertes. On m'a dit fais une école de commerce parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Après il y en a d'autres, ils savent, c'est médecine, c'est comme ça, tu vois, mais c'est chaud hein. Moi je me mets cette phase là elle est bizarre hein.
Ouais, elle est chelou,
je sais pas comment c'est passé pour toi, comment ça s'est passé pour toi?
Alors j'ai toujours voulu être journaliste, enfin d'aussi longtemps que je me souvienne. Et du coup, alors c'est vrai que moi, assez tôt, j'ai voulu faire Sciences Po. Donc, c'est vrai que
d'où le petit patch, là.
Ah, d'où le petit sticker.
Ouais,
alors
sticker
ça, pour l'anecdote, c'est
hein.
que j'ai racheté l'ordi d'une amie en première année à Sciences Po pour faire des économies. Et en fait, elle m'a filé son ordi avec ses stickers et je ne les ai pas bougés.
Il a bien vécu l'ordi, hein.
Ouais. Franchement, je suis assez fière. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile quand t'as un objectif. Moi mon objectif du coup c'était vraiment Sciences Po, je savais que je voulais être journaliste, mais après c'était pas non plus d'un côté je voulais vraiment faire ça, de l'autre aujourd'hui je fais autre chose, donc c'est que j'étais pas totalement fermée, tu vois, à l'idée de faire autre chose, mais c'est plus parce que il s'avère que j'ai créé mon Instagram entre temps pendant mes études, et qu'en fait je pense que je suis vraiment quelqu'un qui a juste besoin d'avoir des projets. Et donc j'ai créé tous ces projets au fur et à mesure de mes études. En fait moi je diplôme l'année prochaine, donc il me reste encore un semestre.
Ah, c'est vrai?
Ouais, je suis encore dedans. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus en parlant avec des amis, en rencontrant des gens que j'ai réalisé que, quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire, t'es un peu lâché dans la nature, quoi. Et moi, ce que je trouve dommage, là, avec le recul, c'est que même si je suis très contente de mon parcours, je trouve que tout ce qui est créativité, c'est vraiment hyper mis de côté. Et alors, personnellement, vu que mes parents sont pas des gens très créatifs, ils nous ont mis dans la tête qu'on l'était pas non plus. Donc pour moi j'étais peu genre le contraire de la créative, j'étais l'académique. Alors qu'au final je me rends compte que je pense qu'on est tous créatifs et que c'est genre le truc qui nous épanouit le plus.
Grave.
Et du coup, je suis en incompréhension de pourquoi on n'a pas plus de...
Après, t'as quand même des gens plus rationnels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas très, très, très stimulé. C'est pas avec un cours d'art plastique par semaine au collège que tu...
Mais de ouf. Et surtout, l'art plastique, nous, c'était hyper théorique. C'était genre la perspective.
Ouais.
Enfin, tu vois, et du coup, ça rendait le truc genre scientifique limite. Et donc, moi, j'aimais pas ça, tu vois.
Mais au-delà de ça, je trouve que quand t'es au collège et au lycée, et en primaire même, il y a un côté, genre, l'artiste, et c'est un peu le...
Le loser.
C'est un peu le loser.
Non, mais c'est grave.
Genre, l'art plastique, c'est la matière qui sert à rien. C'est genre, est-ce qu'on y va ou pas en art plastique?
Genre, F05, quoi.
Genre, tu finis à quelle heure? À 16h, ouais, mais de 15 à 16, j'ai art plastique, donc on s'en fout. C'est un peu ça.
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est pas valorisé. Et en même temps, parce que je pense que pendant de nombreuses années, c'était vraiment difficile de vivre de l'art. Mais je trouve que, comme beaucoup d'autres secteurs, les réseaux sociaux ont vachement rebalancé les cartes. Et aujourd'hui, je connais que ce soit des illustrateurs, que ce soit des peintres, que ce soit des... Enfin, pour moi, c'est vrai que la créativité, c'est pas juste l'art. Enfin, c'est la cuisine, c'est la mode, c'est tout plein de choses.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent vraiment d'en vivre, voire très bien. Et du coup, il faut que l'école, elle suive un peu, tu vois. Moi, j'aurais grave aimé un peu un cours, je sais pas, expression. Tu vois, où on peut choisir, on peut toucher à différentes choses. Je sais pas, la peinture, la poterie, la couture... Ça te sert toujours et je pense que ça développe une aire du cerveau aussi, tu vois.
Mais attends,
moi qui a été sous-développé, quoi, parce que j'en ai jamais fait.
Ouais, mais combien moi j'ai autour de moi aujourd'hui d'anciens d'écoles d'ingé, d'écoles de commerce qui sont en train de devenir ébénistes ou céramistes, enfin, tu vois, ou même cuistot. J'ai des mecs ultra diplômés ou des meufs, enfin, peu importe. Qui se retrouvent à changer de métier complètement. Après, est-ce que finalement. C'est pas aussi le propre des études de te faire mener une direction qui, après des rencontres, vont t'en faire mener une autre. Moi, je suis persuadé que Sciences Po, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie à ton quotidien, et moi, mon école de commerce, ça n'a jamais touché la cuisine, sans ces parcours-là, on n'en serait jamais là aujourd'hui. Ça a forcément influence. Voilà. Après, effectivement, l'État devrait, en tout cas le ministère de l'Éducation, devrait peut-être... on peut regarder ce qui se passe et adapter un peu quand même.
Ouais, je me dis...
Suivre un peu la vague de créatifs qui secoue notre génération, quoi.
Et puis même, dans le Nord, dans les pays du Scandinave, il y a un peu maintenant ce modèle d'école alternative où, tu vois, dès la petite enfance, ils ont vraiment ce côté, ils vont faire des trucs créatifs, même tu vois, assembler des pièces, des trucs comme ça. Je pense vraiment, même pour la formation du cerveau, c'est bénéfique, tu vois, alors que pour l'instant, on est un peu... encore dans le système, ça a quasiment pas bougé, on s'entend. Enfin, nos parents, nos grands-parents, c'était des maths, du français, de l'histoire géo, je sais pas. Bon, on lance l'idée.
Ça te manque, toi, ou pas? Parce que moi, pas du tout.
Ça me manque pas, même si, parfois, moi, perso, j'ai un peu ce truc, étant été très académique toute ma vie, aujourd'hui, je fais quand même plus du tout ça. Et parfois, j'ai un peu ce manque de stimulation intellectuelle. Et je me rends compte, j'en discutais avec mon copain qui est aussi à Sciences Po, et tu vois, débattre de sujets politiques, économiques et tout, parfois c'est un truc qui me manque, parce que aussi j'étais en césure toute l'année, là, donc peut-être que quand je reprendrai Sciences Po, j'aurai un peu ce côté-là, mais je me dis, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur, mais je pense que c'est comme tout le monde, quand tu rentres dans le monde du travail, je sais pas, il y a peut-être un peu parfois ce côté très pratique qui est top. Mais est-ce que... moi, j'aime bien continuer à apprendre, tu vois, continuer à me nourrir.
Ouais, et puis
j'ai pas le temps, j'ai l'impression.
Être aussi englobé, non?
Ouais, pas faire que d'un... Enfin, après, je fais quand même vachement de trucs différents, mais c'est plus le côté... c'est dur de continuer à apprendre parce qu'il faut se dégager du temps pour le faire. Enfin, je sais pas comment toi, tu le ressens. Si tu t'accordes ce temps pour continuer à apprendre aujourd'hui, j'imagine que oui, parce qu'à la cuisine, il y a toujours...
C'était cool, le confinement, pour ça, quelque part, hein. Il y a eu un côté où tu avais du free time, tu t'en faisais ce que tu voulais. J'ai revu des basiques de cuisine que je connaissais pas, que j'avais oublié, qui étaient pas forcément carrées dans ma tête, tu vois, vu que je suis autodidacte.
Ouais, c'est vrai, mais c'est grave intéressant, le côté autodidacte.
C'est vrai que de se trouver du temps pour apprendre, c'est un luxe aujourd'hui, quoi.
C'est ça, enfin, tu vois, moi, typiquement, pendant le confinement, en fait, j'ai fait de la création de contenu à balle.
Ouais.
J'ai fait que ça à fond et donc oui, j'ai appris à coudre, donc j'ai quand même, tu vois, fait un truc
bien.
Ouais, je voulais vraiment le faire, mais au final c'est plus facile d'occuper ton temps pour produire un contenu où tu peux voir un résultat immédiat que de te mettre du temps de côté pour quelque chose dont tu verras pas le résultat tout de suite.
Évidemment.
Tu vois, ça c'est un truc, moi, avec lequel j'ai un peu de mal.
Notre génération, on veut tout de suite, des résultats
De ouf. C'est un peu dangereux,
ouais.
Ça.
Ouais,
mais du coup, pour revenir à ton parcours, ça m'intéresse du coup de savoir, bon, bah, tu fais donc ton école de commerce.
Ouais.
À quel moment tu trouves ta voie? Est-ce qu'il y a des épisodes dans ta vie, tu vois, dont tu veux nous parler, qui, tu penses, ont été assez révélateurs et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui?
École de commerce, donc qui dit école de commerce pour la plupart dit échange. Donc je suis parti à Londres en troisième année. Donc je crois que ça nous amène en 2014, un truc comme ça pour la chronologie. Et donc j'ai 22 ans, je vis à Londres avec des copains. J'ai très peu cours. Je fais un master, je fais une licence de art management parce qu'à l'époque je voulais du coup travailler dans l'art contemporain.
Ouais.
C'était toujours ma vocation. Pensée, tu vois, idyllique, et c'est trop cool. Et j'ai beaucoup de... dans le système anglo-saxon, t'as peu d'heures de cours,
ouais.
Donc j'ai beaucoup de temps libre.
Ouais.
Je me promène, je dévore cette ville qui est ma ville préférée toujours aujourd'hui. Énorme coup de cœur sur Londres. À l'époque, c'était l'avènement de la street food à Londres.
Ouais.
C'était un peu avant Paris, 3 ans avant.
Ah ouais, je trouve que Paris, il n'y a pas trop eu d'avènement de la street food. Hein.
Là, quand même, il se passe des choses. Hein.
Il se passe des choses, mais c'est vrai que moi, pour adorer Londres aussi, les food markets.
Ah,
c'est
ça,
c'est la folie.
Ça, on n'a pas autant. Ça, on n'a pas autant.
C'est ça, vraiment, dans le sud, là, près du London Bridge, il y a un... C'est, je ne sais plus comment il s'appelle.
Borough Market.
C'est pas Camden? Oh, il y a les
Camden,
deux.
C'est...
Non, mais t'as raison. Mais c'est top, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui manque de ouf à Paris.
Ah, mais non, on ne parle pas. Mais ça, c'est, je crois qu'il y a pas mal de problèmes d'autorisation, tu sais, par rapport aux places, de food truck, tout ça. C'est moins libre ici, c'est plus contrôlé, je crois.
Ouais.
Tu sais, par rapport à tout ce qui est bail commercial, tout ça.
Ouais, c'est
pas
complexe
aussi simple,
comme
je crois
lieu.
Que c'est plus compliqué, ouais.
Mais, donc, du coup, gros coup de cœur pour Londres.
Du coup, et pour toute cette food, toute la vie est tournée autour de la food, tu vois, là-bas, à cette époque-là. Mais quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup à Paris, tu vois, avec ça, c'est quand même vachement ça. À Londres, en tout cas, c'était déjà sous la lumière il y a 3-4 ans. Et donc, je suis là-bas et je comprends rien. Et puis, je découvre Otto Langhi, tu sais, le fameux chef qui a écrit tous les livres méditerranéennes. Et je tombe amoureux de cet univers. Et je commence à cuisiner pour mes potes, pour mes colocs. Je leur fais à manger toute la journée, vu que j'ai du temps. Au début, c'est je fais à manger parce qu'on n'a pas trop d'argent et que du coup, on ne peut pas aller au resto. Donc, il faut bien manger. Et après, ils commencent à bien kiffer, moi aussi. Tu vois, donc je fais de plus en plus. On commence à recevoir les copains, les autres copains de Londres qu'on se fait à la maison. On fait des grands dîners. Puis après, il y a les copains de Paris qui viennent, la famille. Donc, je fais encore des grands dîners. Et je me prends vachement au jeu. Et là, à l'époque, je sortais avec une meuf qui habite à Tel Aviv. Et donc, j'ai commencé aussi à faire des allers-retours Londres-Tel Aviv. Et pareil, là-bas, cuisine israélienne, méditerranéenne, là-bas, avènement, en 2014. Donc, je me fais subjuguer entre Londres et Tel Aviv de bouffe. Et donc, voilà, je suis à fond. L'année suivante, je vais vivre à Tel Aviv pour elle. Et je commence à bosser dans des restos pour voir si c'est juste un pressentiment ou si c'est une vocation. Et je me fais massacrer.
Clairement, bienvenue je comprends rien. Bienvenue dans le monde de la restauration.
Ouais, j'étais en mode, ah, trop cool, on va faire une petite salade, ça va être trop sympa, tu vas voir, ça va être trop bon et tout. En fait, j'ai compris qu'entre la passion de se faire à manger ou faire à manger quand tu reçois chez toi et de travailler en restauration avec des règles d'hygiène, avec une brigade, avec des chaînes du froid à respecter, avec des volumes énormes à respecter où parfois tu peux sortir 200, 300, 400, 800 couverts par jour. C'est pas la même chose de faire 700 fois une salade par jour et une fois une salade pour tes copains, vraiment pas. Donc là, le test, il est vachement intéressant. Est-ce que je garde cet amour et cette flamme et cette passion pour la bouffe dans ce schéma-là, ou est-ce que en fait ça me saoule? Est-ce que j'aime c'est cuisiner pour mes potes, comme plein de gens, hein. Tu sais, il y a plein de gens qui sont de très grands cuisiniers, mais ça reste à la
passion,
maison.
Passion, hobby, quoi. Ouais.
De ouf, beaucoup beaucoup, surtout. En ce moment, avec le confinement, il y en a beaucoup qui se sont révélés. J'ai eu tellement de messages, genre de conseils, tu sais, de petits cuisiniers en herbe. Voilà. Et donc, issu de ça, en fait, je me fais massacrer et je mange mon pain noir. Et pendant un an de césure de mon école, donc, parce que c'était l'année d'après mon échange universitaire, je rentre en master, je fais une césure, je pars à Tel Aviv et je fais que bosser dans des restos. Et je rentre et en fait, la flamme s'est pas éteinte, du tout. Donc, à mon retour à Paris, je continue mon master. Et le soir, je vais travailler dans des restos pour approfondir. Je connais des noms comme Isnon, etc.
Mais alors ça me questionne parce que, donc tu le dis, hein, tu t'es fait massacrer, entre guillemets. Donc,
ouais.
dur retour à la réalité, dure prise de conscience, mais ça ne t'arrête pas, parce que c'est vrai que pour des personnes qui peut-être tu vois, sont dans le doute justement entre des passions et peut-être une voie plus classique ou ce qu'ils avaient imaginé, qu'est-ce qui te fait dire que malgré le fait que ce soit pas du tout ce que tu t'es imaginé, tu veux quand même continuer ?
Tu sais, je pense que ça c'est très important de le préciser, pour certains, enfin, quand tu vois des réussites de l'extérieur, tu te dis waouh, c'est génial et waouh, c'est pas si compliqué en fait parfois, tu vois. Il suffit d'être beau, il suffit de mettre des belles photos, surtout les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est d'être influenceur et de créer du contenu comme toi. Ça demande un travail, une créativité, tu t'aimes tellement de toi en vrai et d'engagement et tout, qu'en vrai, on ne peut pas faire de grandes choses sans sacrifice et sans se donner à fond. Mm. Ça, c'est sûr, tu vois. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc bon, quand tu te fais massacrer, à un moment donné, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de tout défoncer ou est-ce que tu préfères avoir une vie plutôt rangée et... Ça dépend, tu vois. Moi, en l'occurrence, j'avais des choses à prouver, je pense, et à exprimer depuis longtemps. Je le savais. J'avais un mal-être, tu vois. Je savais qu'il fallait que... J'étais pas encore... J'avais pas éclos, quoi. Vraiment pas. Et je sentais que c'était ma porte... c'était la porte... voilà, donc j'ai fait des petites dépresses, hein, parce que je me suis vraiment fait massacrer, parce que tu viens pas du milieu, t'as pas fait d'école, y a rien qu'une posture, une façon de couper, des horaires à tenir, tes jambes elles sont pas habituées à faire des services de 10 heures d'affilée et de te réveiller le lendemain matin à 7 heures alors que tu t'es couché à 3 heures après le service, tu vois que tu manges rien de la journée parce que t'es en service, le corps doit s'habituer à ça.
Ouais.
Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai des cuistots qui ont été façonnés depuis CAP, école, qui ont fait des stages et qui après, tu vois, qui ont travaillé dans des grandes maisons, qui arrivent, les mecs déjà, c'est des diamants bruts.
Mm.
Il faut le créer, le diamant. Franchement, on n'a rien sans rien, ça c'est sûr. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est facile, c'est impossible.
Ouais,
je pense que tu es assez d'accord là-dessus.
Ouais, je suis carrément d'accord, mais c'est vrai que c'est pas facile. Tu vois, moi je suis jamais passée par une phase de dépression. Avant, enfin, dans le métier que je fais, et quand même où je me serais dit, il faut que je persévère, tu vois. Et donc, je pense que ça peut être difficile quand on vit des moments durs de réaliser que si c'est quand même, que c'est
oui.
quand même sa voie, tu vois.
T'as quand même des phases de surchauffe, t'as quand même des périodes de surchauffe.
Ouais, ouais, mais c'est plus, tu vois, de la fatigue que du dégoût ou que.
Ah non, je t'ai pas parlé de dégoût, je t'ai pas. Je pense que j'étais à la barrière du dégoût, mais juste. J'étais pas dans le dégoût, j'étais dans le challenge, tu vois, plus.
Ok.
Je me faisais un
en
peu...
En gros, c'est plus, est-ce que j'ai l'étoffe de...
Et
tu voulais prouver que tu l'avais, quoi.
Non, et puis quand tu vas travailler dans des restaurants où il y a un certain standing et que tu n'as fait aucune... Enfin, c'est quand même... C'est pas un jeu, c'est un métier. J'avais pas de formation, tu vois.
Et d'ailleurs, ça, est-ce que ça n'a pas été compliqué
au début, ils m'ont fermé la porte au nez, donc j'ai dû commencer par la petite porte. J'ai fait un peu de plonge.
Ouais.
J'ai travaillé d'abord dans des fast-food, tu vois, au début. Voilà, je suis monté crescendo, pardon, jusqu'à arriver dans les restaurants qui m'intéressaient là-bas.
Bah ça c'est cool de le dire aussi parce que
parfois
les gens ils se rendent pas compte, enfin déjà donc c'est un message, même si vous avez pas fait d'études dans un certain domaine,
vous pouvez
arriver à votre rêve et il va peut-être falloir passer par la petite porte et il faut en avoir conscience et faut pas le rebuter quoi,
à fond. Et, oui. Ben, en fait c'est ça le message, parce que quand je disais que je me faisais un peu massacrer, c'était ça le message quoi, c'était que quand j'étais pas prédestiné à ça, donc il fallait que je me façonne et que je rattrape ça, mais rien n'est impossible, ça c'est sûr.
Trop cool, bah, c'est déjà un message encourageant.
Voilà.
Et donc tu reviens à Paris, tu bosses le soir dans les restos,
ouais.
Et donc une fois que tu termines tes études, tu te dis,
je me dis,
ça part à fond.
Bah, en fait, une fois que je finis mes études, je vais voir mon patron de l'époque, je lui dis, déjà je fais un grand mémoire qui m'a pris beaucoup de temps, sur c'était en 2017, ouais, septembre, les défis de l'industrialisation de la nourriture, tu vois, donc le fait qu'on élève de la viande en batterie, tu vois, et qu'on fasse de la pêche intensive, ou bien qu'on cultive des produits hors sol, ou qu'on fasse beaucoup d'importations de produits du monde entier, ou qu'on fasse des trucs en Espagne, avec plein de voilà.
Mm.
Pourquoi ? Quelles sont les solutions ? Pourquoi on fait ça ? Ce que ça implique en termes d'écologie, ce que ça implique sur le corps et vers quelle ouverture tendre pour que ça aille mieux et de quoi est fait demain. Quoi. Ça m'a passionné, ça m'a pris 6 mois. Et ça m'a vachement ouvert sur la beauté du métier, sur tout ce qui est produit, etc. Je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma carrière, où en fait je me suis rendu compte que c'était pas la technique et tout qui est importé, mais tout ce côté-là, amour et partage avec des producteurs, tout ça, tu vois, tout ce qui fait plus un chef, entre guillemets, tu vois, la vision d'une cuisine plutôt que la cuisine en tant que...
philosophie, quoi.
Exactement. Et puis, je vais voir mon patron d'époque, je lui dis, écoute, je vais être diplômé d'une école de commerce, c'était sympa, maintenant, moi, j'aimerais monter un concept, j'aimerais faire... qu'on fasse ensemble du domicile. C'était chez Miznan à l'époque, le restaurant de pita assez connu.
Ouais.
Il m'a dit, que j'adore d'ailleurs toujours, il m'a dit, écoute, pas le temps, on fera ça plus tard. Et donc moi, j'ai dit, ok, je vais le faire tout seul. Je me suis dit qu'en fait, à domicile, il n'y avait pas de traiteur ou de cool, quoi. Tu vois, il y avait plein de restaurants trop branchés, trop cool, qui ouvraient dans les quartiers un peu populaires ou pas. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien à domicile? Si demain, je veux faire mon anniv chez moi ou je veux me marier ou quoi, c'est toujours très classique, quoi. Donc, j'ai monté ça et j'ai commencé à aller chez les gens et ça a tout de suite pris, voilà.
Ok. Et ça, voilà. C'est trop cool. Donc, en fait, tu t'es dit, dès le début, à la sortie de tes études, que tu voulais lancer ton concept. Si t'avais quand même retiré ça de ton parcours, c'est que c'était pas pour toi le...
Ça, c'est l'école de commerce, tu vois, je pense, clairement. Ça, sans l'école de commerce, j'aurais jamais eu cette confiance, tu vois, j'aurais jamais eu la... Enfin déjà, le côté compta, etc., le côté rentabilité,
business model,
etc., ouais, premièrement. Et puis, deuxièmement, j'ai trouvé un concept, parce que je n'avais pas un euro à l'époque, et en fait, quels sont les risques, tu vois?
C'est clair.
Un dîner ne se passe pas bien, on s'en fout.
Ouais.
Si je vois que ça ne prend pas, tant pis. Ce n'est pas genre, il fallait prendre un pas de porte, il fallait payer des employés, des trucs.
Et tout.
Non, là, c'était vraiment en mode épisode zéro, je dois juste aller acheter des aubergines et un peu de déco pour me marrer et un joli tablier, tu vois, ça s'arrêtait là.
Ouais.
Et j'y allais en métro avec tous mes sacs et mes trucs. Bon, voilà, au début, c'était un peu à l'arrache. Mais quand c'était sans risque, en fait. C'est pour ça que je me suis lancé. Je me suis dit, au pire, qu'est-ce que j'avais
? Et en termes, même hyper pratiques, est-ce que tu te souviens du premier dîner que tu as donné ont été un peu...
Bien sûr.
Quelle a été ta réflexion, ta stratégie? Tu vois, raconte-nous le day one.
Bien sûr. Moi, j'étais en mode, ok, on va faire un truc trop original. Je vais prendre rendez-vous avec la cliente. On va demander qu'est-ce qu'elle a comme vision de son anniversaire, qu'est-ce qu'elle veut comme... Enfin, j'allais super loin dans le truc. En fait, elle m'a dit, voilà, t'as tant de budget, tu fais ce que tu veux avec. Donc moi, j'ai fait toutes les recettes que je connaissais à l'époque. Il y avait des recettes un peu de Miznan, il y avait des recettes issues de mes voyages. Tu vois, c'était très méditerranéen. Et j'ai commencé et j'étais tellement excité qu'en fait, je voulais un peu cuisiner devant les gens. Tu vois, donc je posais tout sur un buffet. C'était un truc pour 30 personnes avec tous mes potes. Hein. Je vais te le dire, c'est une pote à moi qui m'a fait ça pour me lancer.
Forcément, au début, j'allais dire, tu vois, le réseau.
Ouais, je l'ai fait à perte ce dîner-là, mais je suis toujours très content de l'avoir fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement frustré parce que tout le monde était un peu bourré, vu que c'était un anniv, et que les gens sont arrivés tard à 22h30, 23h. J'étais tellement frustré que personne ne regarde trop le buffet, qu'en fait, je me suis mis derrière la table et j'ai commencé, pour attirer l'attention, à tout dresser devant les gens, tu vois. J'ai posé sur du papier cuisson et j'ai commencé à cuisiner vraiment en mode... comme une œuvre d'art sur le moment, quoi, tu vois. Comme une prestation, plutôt, tu vois. Et là, tout le monde s'est retourné, a sorti son téléphone et a commencé à mettre des stories. Et en fait, c'est là où, après ce dîner-là, où ça a direct buzzé un petit peu et où après, j'ai eu plein de demandes et j'ai continué. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans ce métier, c'était le partage. C'était le côté vachement vivant, tu vois, l'instant avec le client, comme ça, tu vois, je fais goûter. Voilà.
Okay.
Ça s'est fait comme ça.
Ouais, donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, tu dirais que c'est les réseaux sociaux qui t'ont aidé à monter ton business ?
Ah oui, complètement.
Okay.
Au début, oui.
Donc ta deuxième commande, ton deuxième dîner, il est venu de...
Quelqu'un qui a vu une story de quelqu'un.
D'accord, c'est incroyable.
Ouais,
parce que,
complètement.
Est-ce que tu avais un peu réfléchi à comment tu allais trouver des clients ? Est-ce que tu avais pensé à des stratégies de communication ?
Je me rappelle pas de comment je pensais, mais oui, je savais que je me forçais à poster des photos sur Instagram parce que je voyais bien que les cuistots... à l'époque, les chefs qui marchaient, tout ça, c'est des gens qui publiaient beaucoup, etc.
Et
je découvrais Instagram. Pour moi, Instagram, c'était genre, je mettais une photo de moi et ma grand-mère pour son anniversaire, tu vois. Et
c'était un peu Facebook, quoi.
Oui, à fond, grave. Ou pour mettre des jolis filtres, tu vois. Je sais, mon Instagram de l'époque, il ressemblait à que dalle. Il était fermé, il était tout. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Et puis, l'engouement des gens a été vachement incroyable parce que c'était original, quoi. Et puis, surtout, à l'époque, enfin, encore maintenant, je trouve que c'est dingue. Tu veux faire ton anniv, t'invites 20 copains à la maison. Soit tu les invites à 23h et c'est une grosse tôle et c'est galère pour les voisins. Soit tu les invites pour dîner et tu fais quoi? Tu passes ta journée à cuisiner ou alors ça te coûte 500 balles de traiteur ou de pizza ou... Franchement, t'as envie de marquer le coup, tu fais venir un chef à domicile comme ça, soit moi ou un autre, et à fond. Et puis après, à l'époque, si je pensais, il y avait des sites qui mettaient des chefs à domicile en avant et tout. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était montrer que je n'étais pas chef à domicile en fait. J'avais monté un concept qui s'appelait « Je cuisine chez toi », toujours d'ailleurs. Et où c'est pas moi, Julien Sebag, qui vient forcément cuisiner chez toi. C'est on ramène un peu de déco, une mise en scène, on cuisine devant les gens, on partage, tu vois. C'est vraiment particulier. C'est pas juste, c'est pas les petits plats dans le, c'est pas comme au resto, quoi.
Ouais, je comprends. Voilà. Tu vends vraiment une expérience plus que juste le food.
Mais donc ça fait la soirée, quoi. Tu vois, c'est cool. Quand t'as 22 copains à la maison, à la cool, en mode buffet, t'as plutôt envie que ce soit genre libéré, que t'aies des gens sympas qui viennent faire partager de la bouffe plutôt que tout le soit assis comme ça, tu vas au resto, quoi.
Je suis totalement d'accord. Voilà. Et du coup, à partir de... Enfin, j'imagine que tes journées, là, ça devait être un peu compliqué parce que donc, d'un côté, tu dois préparer la food, d'un côté, tu dois peut-être organiser ta compta, penser à la suite. Enfin, tu devais avoir différentes casquettes. Comment est-ce que tu as géré un peu tout ce développement?
Bah, tu sais, quand tu montes un concept et qu'au début, ça marche, t'as une adrénaline tellement inexplicable, tu vois, genre, enfin, tu as dû le ressentir. T'es en mode, tu comptes même pas les minutes, ni les heures, ni les jours, ni les, tu vois, je m'en rappelle même pas de mon dernier jour de repos, mais je m'en fous en fait parce que c'est pas du travail quand c'est ta passion et que les gens te montrent de l'intérêt, de la reconnaissance. Enfin, c'est la meilleure drogue au monde. Donc là, il y avait pas de limite. Je faisais que bosser et j'étais vachement bien entouré, vachement bien conseillé. Et mes parents m'aidaient vachement, ils m'ont prêté leur appartement en tant que labo, tu vois, où je stockais mon matos, ou voilà, ils m'ont prêté leur voiture à l'époque parce que je pouvais plus continuer en métro, je me cassais le dos. Voilà, au bout d'un moment, j'ai pris une stagiaire assez rapidement qui était en école de cuisine à côté, qui m'aidait beaucoup. Et c'était et puis après quand tu vois que ça marche, que ça va trop vite pour toi, bah tu recrutes quelqu'un en plus, etc. Voilà. Puis maintenant on a une équipe.
Et ça n'a pas été trop dur la phase où bon, tu t'es rendu compte que tu allais plus pouvoir tout faire tout seul? Est-ce que toi t'as pas de mal à t'entourer?
Chez qui t'es allé,
t'es allé toquer à quelle porte, tu vois, pour trouver les bonnes personnes, surtout que c'était un concept assez personnel au final.
Ouais, c'est vrai que c'est vachement dur de déléguer. Franchement, c'est vachement dur. Sauf qu'au bout d'un moment où je tournais un peu en rond, ça faisait 4-5 mois où je faisais des dîners pour 20 personnes tous les jours, comme ça, tout seul. Et que quand tu sens que l'amour, parce que tu as beau aimer plus que tout ton métier, si tu le fais tous les jours de la même manière, au bout d'un moment,
la routine se un peu,
et l'amour dans le truc et aussi. Donc à la fin, quand je sentais que j'arrivais un peu moins avec le sourire chez les gens, je me suis dit qu'il y avait un gros problème. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké des dîners à l'étranger. Et j'ai réussi, tu vois, en mettant des stories sur Instagram en mode « Hello, je serai à New York la semaine prochaine. Est-ce que ça chauffe quelqu'un dîner à domicile ?» Et bon, j'arrivais par A plus B à trouver un truc qui me payait le voyage, tu vois. Donc j'ai commencé un peu à voyager pour décompresser. En rentrant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne quelqu'un en plus. Et que dans tous les cas, j'allais être tout le temps là et que cette personne allait finir par reprendre mon cerveau, tu vois, et qu'il n'y avait pas de raison, voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est toujours mon bras droit, elle s'appelle Jess, et ça fait 3 ans maintenant qu'on bosse ensemble, tous les jours. Et j'ai plus confiance en elle qu'en moi, voilà. Donc,
il faut, c'est là où je pense, on sait qu'on a trouvé...
C'est hyper important de savoir déléguer. En fait, le seul truc qui est compliqué, et ça je me rends compte aujourd'hui, c'est de réussir à comprendre que les autres ne sont pas dans ta tête. C'est pas parce que tu penses que t'es convaincu de quelque chose et c'est pas, enfin,
c'est pas évident.
C'est pas évident pour les autres. Donc c'est à toi de savoir bien expliquer, parler, prendre le temps, montrer. C'est des processus qui prennent du temps, mais
qui sont hyper importants et
fondamentaux,
bénéfiques
si tu veux,
au final, quoi.
Si tu veux avancer, si tu veux avancer, c'est fondamental.
Et à quel moment, du coup, tu as commencé à avancer à ta deuxième aventure? Je crois que c'était Créature ou d'abord chez WAM?
D'abord chez WAM.
Ok. Ouais. À partir de quel moment tu penses à ça?
En fait, c'est mon associé actuel qui m'a appelé en me disant « Écoute, Julien, je sais que tu adores faire tes prestats à domicile. C'est génial, mais si tu veux passer la seconde, moi je te propose un concept qui ne va pas imputer des dîners à domicile parce que c'est un restaurant ouvert 15 jours par semaine. Donc chez WAM aujourd'hui. Et il m'a dit, lui il travaille avec un grand groupe de restauration qui s'appelle le groupe MoMA.
Ok, alors juste du coup, c'est pas Jess là, t'avais un autre associé qui est entré
Non, alors
en.
Jess, c'est pas à l'époque, c'est pas mon associé.
Ok.
Elle travaille pour moi
Ouais.
et elle m'aide pour les dîners à domicile. Elle est cuisinière.
Ouais.
Voilà.
Et c'est l'associé est venu à quel moment du coup dans
Et
le.
l'associé est venu, voilà, au moment où mes dîners tournaient vachement bien.
Ouais.
Il y a un mec qui travaille dans la restauration depuis longtemps, qui m'appelle, il s'appelle Jean-David, qui m'appelle et qui me dit, je vois que tu fais des dîners, c'est trop cool. Je sais que tu veux pas les arrêter, donc je te propose de faire un restaurant éphémère, comme ça,
Ok.
t'as le temps le reste de la semaine de faire tes dîners. Et le mardi ou le mercredi ou le jeudi, un jour par semaine, on fait un resto ensemble. Donc j'ai dit, ça marche. Et comme lui, il est associé avec un grand groupe, on
Ouais.
bénéficiait des infrastructures du grand groupe. Donc on
D'accord.
a commencé à regarder les lieux. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait le bus Palladium qui appartenait au groupe en question, j'ai dit, c'est sûr que ce sera là-bas parce que moi, j'ai grandi dans le 9e, je suis un enfant de Pigalle et je vis au bus Palladium depuis que je suis petit. Donc ça m'a semblé comme une évidence. Et donc le mardi soir, voilà, et donc ça a commencé le mardi, je crois, 2018, 3 octobre, un truc comme ça. Voilà, voilà, voilà.
C'est cool, non, mais de voir que en fait c'est très ouvert aux opportunités et
Ouais.
c'est important, je pense aussi de le dire, quoi, de pas
Ouais. Bah
rester
après,
muté.
j'ai vachement de chance. Il faut apprendre à dire non, ça c'est important.
Ouais.
Et ça, j'ai eu beaucoup de mal au début. On me proposait plein de projets. Au début, moi, j'arrivais pas à dire non au dîner à domicile. Tu vois, j'étais tellement excité par une demande que j'étais en mode à chaque fois oui, jusqu'à des fois où genre, j'ai frôlé le burn-out parce que quand tu fais 10 dîners d'affilée, tu vois.
Ah ouais, c'est
Tu lâches
chaud.
pas prise, tu peux
Ouais.
vraiment griller quoi.
Ouais.
Donc j'ai appris à dire non et j'ai appris à dire non aussi au resto. Enfin, en fait, je savais que j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant propre à l'époque. J'avais pas envie de m'enfermer entre quatre murs. Je voulais continuer un peu
À être nomade.
à être nomade, à faire un dîner à Bruxelles le week-end, à faire un dîner pour Balenciaga le mercredi
Ouais.
et à me reposer 2 jours d'affilée si j'en ai envie et partir. Voilà. Et donc ça marchait, cette proposition de chez WAM marchait super bien en fait parce que ça me permettait de pouvoir continuer à tout faire.
D'accord.
Et en même temps à avancer parce qu'au bout d'un moment, à domicile,
Ouais, c'est
j'avais
sûr.
envie de pouvoir faire un endroit où je pouvais recevoir les gens comme un restaurant classique. J'avais des idées, tu vois, que j'avais, voilà.
Ouais, et
Parce
qu'est-ce que
que...
ça a changé du coup pour toi chez WAM? Est-ce que ta façon de cuisiner a changé? Est-ce
Ah
que
bah
t'as,
attends,
enfin, la vision que tu
grave.
imaginais pour ton futur a changé?
Écoute, si tu veux, le futur, je sais pas. En tout cas, pour le présent, j'étais vachement, pas prétentieux, mais j'étais vachement sûr de moi dans le sens où je me dis, attends, j'ai fait des dîners, j'ai enchaîné tous les 20 soirs d'affilée où j'ai des dîners à domicile pour 20, 30, 40, 100 personnes. C'est pas un restaurant qui va me faire peur, je vais le torcher, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est une autre, façon de travailler. Être chef d'un restaurant, ça n'a rien à voir avec être traiteur. C'est un autre métier complètement différent. Même si à l'arrivée, c'est la même recette. La préparation, le stockage, la gestion des équipes, la commercialisation, le marketing, la gestion de la salle, tout ça, j'ai dû tout réapprendre, tout déconstruire. Donc ça, chez WAM, ça a été une vachement belle école.
École,
Et
ouais.
même Créature qui est arrivée 8 mois après, donc
Ouais.
l'été dernier, pareil, j'avais jamais fait un restaurant. Je me suis dit, attends, j'ai géré un restaurant ouvert un soir par semaine, plus des événements, des locations de salle, des trucs, plus des voyages et tout. Un truc sur le toit un truc végétarien sur le toit des galeries, je vais en faire qu'une bouchée. Et en fait, pareil, je me suis pris une grosse claque. Et chaque nouveau projet te fait
Grandir, quoi.
grandir, ouais. À
Est-ce
fond.
que là aussi, c'est du coup les galeries qui t'ont contacté pour créer ce
Bah là, c'est le
concept?
même groupe, MoMA toujours,
Ouais.
qui a gagné la concession de la restauration de la terrasse des Galeries Lafayette, qui
Ouais.
a été refaite, qui est magnifique. Magnifique, pardon. Galeries Lafayette Haussmann, tu sais,
Ouais.
ils ont tout refait en béton, magnifique.
Ouais, je
Ouais.
vois.
Et du coup, MoMA a gagné cet appel d'offres et il m'a proposé l'an dernier de faire une terrasse éphémère sur le toit des galeries le temps des travaux, parce que
Ouais.
la moitié de la terrasse était encore en travaux. J'ai accepté, quand je l'ai visité, j'ai vu qu'il y avait un énorme potager à l'étage du dessus, j'ai dit ok, ici ce sera 100% végétarien. Et au début, tout le monde était réticent, mais ils ont fini par me suivre et ça a donné Créature. Voilà.
Ok.
Et ça a tellement plu en fait aux galeries et à nous. En fait, les galeries, ils avaient un brief, c'était de pouvoir faire revenir des Parisiens aux galeries Lafayette Haussmann, qui étaient devenues quand même vachement internationales. Puis même pour un Parisien, c'est un peu l'enfer, tu vois, d'aller là-bas, genre c'est bourré de monde. Bon, bref, et du coup, je me suis dit que le côté végétarien, avec la vue de ouf, ça pouvait faire venir un peu des Parisiens. Et au final, il y a du monde qui vient, donc c'est vraiment cool.
Ouais, et ça a duré plus longtemps que les travaux, du coup.
Et ça, bah ouais, et en fait, après les travaux, on devait se faire virer. Et finalement, ils m'ont appelé pour me demander si j'étais chaud pour rester l'année prochaine et l'année
Ouais.
suivante. Et voilà. Et donc, me revoilà cette année. Voilà, me
Ouais.
revoilà cette année.
Trop cool. Et
Trop
alors,
bien.
comment est-ce que tu organises ton temps aujourd'hui entre ces trois projets?
Ouais.
Est-ce que ça a été difficile de savoir? Parce que bon, plus ça se rajoute, même si ton équipe grandit, plus c'est peut-être difficile de savoir toi où te positionner.
Bah écoute, c'est au jour le jour, j'apprends un peu à tisser ma nouvelle vie, mais c'est la clé, c'est d'être bien entouré toujours. C'est-à-dire que j'ai un super groupe avec lequel je travaille qui est vachement consciencieux de toutes les règles d'hygiène, de toutes les problèmes comptables, de RH, tu vois, contrat, tout ça. Et derrière, j'ai mon chef en cuisine pour chaque établissement qui est responsable. Chez Créature, c'est Clovis, qui cette année, qui est hyper, hyper bien organisé, qui tient la cuisine d'une main de fer avec un second, avec toute une brigade normale. Moi, je viens pour mettre un peu d'ambiance, tu vois, pour faire un service tous les 2 jours, tu vois. Au moins, j'essaye pour stimuler les équipes. Pour aller mettre pour vérifier que toutes les recettes vont bien, pour remettre une nouvelle recette, tu vois, ou en changer une, pour suivre bien les saisons, parce que je fais hyper attention à manger, voilà, à travailler saisonnier, pour aussi aller voir les clients, bien évidemment. Voilà, j'essaie d'être là le plus possible, mais il y a des gens qui tiennent bien la baraque derrière, en tout cas.
Ouais. Et tous les mardis, t'es chez
Bah,
l'OM ou...
avec ce qui se passe, le bus
Ah ouais.
Palladium est complètement fermé.
Ah merde, ok.
Ouais, donc
Ouais.
là, chez WAM, c'est entre parenthèses. Par contre, on
Ouais.
travaille sur un nouveau projet là qui va ouvrir bientôt. Je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais ça va ouvrir
Tu peux me donner un petit
fin août,
teaser?
ouais, fin août.
Oh,
C'est sur la terrasse des
exclu.
galeries aussi.
Ok.
C'est en face de Créature, c'est de l'autre côté.
Ouais.
Et ça va s'appeler Tortuga.
Ok.
Et c'est un restaurant 100% poisson.
Oh, trop cool. J'adore
Ouais.
ça.
C'est
J'ai...
vrai?
Ouais, j'adore
Ah,
ça.
trop cool, bah
Et
tu
j'ai vraiment du
viendras.
mal à trouver des bons restos de poisson à Paris. Enfin, en
Ah
tout cas, à
ouais.
chaque fois que je vais au bord de la mer, je suis vraiment là, genre, ah ouais, ça n'a rien à voir.
Non.
Donc, je sais pas si vous allez pouvoir relever le défi, mais je pense qu'il y a
Je
une
croise
place
les
à
doigts.
prendre. Hein. Ouais.
J'espère. Bah c'est vrai, ça part un peu d'un constat comme ça, qui est qu'aujourd'hui, restaurant de poisson, c'est souvent très classique, ou bien, ouais, un peu boring, quoi, tu vois, ça tourne un peu en rond. Et là, j'ai envie d'essayer d'amener un petit peu de fraîcheur, d'originalité. Sur ce domaine-là, et surtout essayer d'éduquer un minimum, parce que je m'intéresse vachement maintenant. Enfin, l'année dernière, j'étais vachement sur les légumes. Là, je m'intéresse vachement à la pêche sauvage, à essayer de comprendre ce qui se passe dans la mer. On sait que, tu vois, tout le monde s'en fout du poisson un peu.
Ouais,
Tout
c'est
le monde est en
vrai.
mode, moi, je mange végétarien parce que les pauvres animaux, on peut pas les tuer, tu vois. Et tout le monde dit, ah, mais enfin, le poisson, je m'en fous, j'en mange. Mais non, si tu manges du poisson, déjà, t'es pas végétarien. Déjà. Premièrement. Et deuxièmement, le poisson a une conscience, le poisson a un cerveau, et le poisson et les élevages de poissons qu'il y a en batterie, où tu as 1 mètre cube de. Enfin, où les poissons peuvent pas nager, tu vois, comme ça, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et puisqu'on bouffe dans les poissons d'élevage, où ils sont nourris aux antibiotiques, c'est catastrophique.
Ouais, c'est vrai
Tu
que ça
vois?
pourrait être bien de préciser dans les restos si le poisson, enfin les conditions
Ah
d'élevage
bah ouais, mais ça,
du
ça
poisson ou
devrait.
s'il est bio, s'il a
Non
été,
mais
tu vois.
ce que tu vas sans citer de nom, mais je m'en fous, ce que tu vas acheter chez Carrefour, même si c'est du poisson frais sous vide et dans le congelé, n'en parlons pas, c'est
Maintenant, ça m'intéresse.
abominable.
Et les trucs typiques à Monoprix, moi, je sais qu'il y a un stand de pêche où il y a
Oui.
les vrais poissons qui sont dans les cubes de glace et tout. Genre, c'est pas sous vide. Ça va ou pas?
Tu veux dire les
Les
poissonniers qu'il y a?
poissonniers, ouais, qui sont
Ben
dans les
non,
supermarchés.
bah, alors c'est du poisson frais, c'est toujours meilleur, mais en fait, tu vois, il y a toujours une étiquette à côté du poisson, avec le prix au kilo, etc. Il y a souvent marqué le pays de provenance et il y a souvent marqué le type de pêche. Donc, si c'est pêche de ligne, en général, c'est-à-dire que le poisson est sauvage. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que c'est un poisson qui a vécu sa vie de poisson et qui a un bateau qui allait en pleine mer pour le pêcher, tu vois. Et la pêche sauvage, elle est calibrée, elle est hyper, 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 hyper réglementée. C'est-à-dire que tu ne peux pas pêcher, par exemple, un poisson qui a trop d'œufs, ou deux, je sais pas, enfin qui...
C'est dur à dire. Ouais, qui a trop de trucs dans son ventre.
Ouais, qui a trop de trucs dans son ventre parce que reproduction, il faut respecter. Donc en général, ouais. C'est bien, mais c'est beaucoup plus cher, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Après, t'as des poissons d'élevage, t'as des poissons d'élevage bio, t'as des poissons d'élevage, avec différents calibres, t'as des poissons d'élevage qui viennent de l'océan Indien, des Français.
Et Picard, voilà. Ça va ou pas?
Bah, tu vois, ça dépend, il paraît que c'est bien Picard. Hein.
Bah, il paraît, moi je sais que, en tout cas, apparemment, ils sont vraiment pêchés, et qu'après, c'est direct mis sous congèle, donc en plus, niveau qualité du poisson, c'est quand même mieux que peut-être s'il s'est trimballé dans les rues de Paris, je sais pas.
Ça,
mais je regarde moi souvent les labels en fait. Au moins Picard c'est assez évident, tu vois.
Bah, si, après, tu vois, toutes ces histoires de labels aussi, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le label rouge ça veut rien dire, hein, tu vois.
Le label MSC pêche durable.
Oui, ça c'est pas mal.
Ouais, moi je regarde ça.
Il faut regarder les labels.
Ouais, en fait. Non, mais c'est cool parce qu'aujourd'hui dans l'alimentation, on s'intéresse vraiment plus juste à ce que t'as dans l'assiette, mais
à la
provenance, d'où ça vient
c'est
grave
génial.
Important, ouais.
C'est génial. Pour nous cuisiniers, ça fait vraiment. Très plaisir et c'est vraiment encourageant et c'est fondamental parce qu'on partait complètement en couille.
Ouais, c'est vrai. C'était un peu le wake-up call, quoi.
Ah ouais. On est allé loin.
Ouais, on est allé loin. J'espère pas trop loin. J'espère que des personnes comme toi, tu vois, peuvent montrer qu'il y a un nouveau moyen de produire, de consommer, de manger. J'ai trois petites dernières questions pour toi.
Oui, avec plaisir.
D'abord, est-ce que tu peux me dire s'il y a une ressource qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie, que ce soit une œuvre qui t'a chamboulé, un livre, un documentaire, une photo, ce que tu veux, mais que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent.
Oui, avec plaisir. Moi, la première, c'était, je pense que c'est l'œuvre complète de Tim Burton, dont je suis très très fan. Que ce soit pour les dessins qui me touchent vachement, les couleurs utilisées, les formes aussi, tu vois, hyper imparfaites. Et ça se retrouve aussi dans ces personnages, beaucoup avec Johnny Depp, tu sais, par exemple dans Edouard aux mains d'argent, où t'as toujours des monstres gentils et ces personnages naïfs, hyper imparfaits, ces faux héros, tu vois. Et en fait, il y a toujours une morale à la fin où tout est bien qui finit bien et où l'amour triomphe, c'est rarement pessimiste. Et en fait, moi, je me nourris de ça et ça m'a vachement donné confiance en moi en me disant que la vie, c'était un peu un conte de fées et que même si je suis imparfait, j'existe comme ça et ça peut bien se passer. Et je m'identifie vachement à ces personnages, en fait. Et puis ma cuisine, elle l'est, tu vois. C'est une cuisine simple et imparfaite, clairement, mais il n'empêche que elle plaît parce qu'elle est insouciante et naïve,
sincère,
et colorée, tu vois, et sincère.
Trop cool.
Voilà.
Ensuite, j'aime bien demander aussi si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que t'aimerais entendre?
Genre en invité?
Ouais.
Ah bah Tim Burton du coup.
Tim Burton du coup.
Ah bon, je veux trop savoir ce qui se passe dans sa tête, je le trouve tellement touchant ce mec.
Ouais, bah ça pourrait.
Fascinant.
Je vais essayer de creuser, voir si ça serait
possible.
Ouais,
c'est sûr que ça peut. Je suis sûr que tu peux y arriver.
Ouais, bah c'est bien, c'est un nouveau défi. Et du coup, ma dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Ça signifie s'assumer, savoir se regarder dans la glace et dire je suis moi, je m'aime comme je suis, je suis content, et voilà. Et accepter sa sensibilité, sa sexualité, tu vois, être bien dans ses basques. Pas vivre à travers la société, mais vraiment se laisser s'exprimer, quoi. Lâcher prise.
Trop cool. Ouais. Bah, merci beaucoup, Julien, d'être venu sur InPower. C'était grave cool d'échanger avec toi.
Ah bah ouais.
Si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, les découvrir tes différents restos, où est-ce qu'on les redirige?
Eh bah, ben, venez sur Insta, Julien Sebag, S-E-B-A-G. Je vous attendrai, je répondrai à vos questions et puis je mets toutes les infos et tu peux tout retrouver un peu globalement là-dessus. Mes restos,
super.
Tout est dans la bio.
Trop cool, et je mettrai aussi le lien quand même de tes restos dans la barre de description pour toutes les personnes qui sont curieuses d'aller voir.
Merci beaucoup.
À très vite. Salut.
Salut.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @juliensebag et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'ils pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.